nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Jeune homme si charmant, qui t'aimait beaucoup, elle lui dit. Eh bien, il est venu. À tes nouvelles, il pense beaucoup à toi. Elle ne dit rien. Il lui dit. C'est un garçon très gentil, tu sais. Elle lui dit. Oui, je crois, peut-être bien. Il lui dit. Il aimerait te dire bonjour. Elle lui fait. Pourquoi faire? Pour te voir. Mais j'ai pas du tout envie de le voir. Il lui dit. Ce n'est pas bien. Ce jeune homme se fait du souci pour toi. Et tu veux pas le voir? Elle lui dit. Et alors? Il t'aime beaucoup et te pardonne ce que tu as fait. C'est une grande preuve d'amitié ce qu'il te fait là. Parce qu'une jeune fille qui s'enfuit comme ça, avec un jeune homme, se déshonore à vie. Et aucun garçon n'en veut. Tu t'es mise en bas de la société et tu te comportes très mal. Tu as déshonoré la famille. Eh bien, lui te fait l'honneur de passer outre et te donne son amitié. Elle lui dit, peut-être bien, mais moi je lui ai rien demandé et pour ce qui est de mon honneur, il ne regarde que moi. Je n'ai rien à me reprocher. Franck lui dit, peut-être, mais aux yeux des gens, ils ont des choses à te reprocher, et tu n'y peux rien. Alors estime-moi heureuse que je ne veuille bien de toi. Elle lui dit, moi je ne veux pas de lui, j'ai Luc. Il lui dit, il a disparu et t'a laissé entre mes mains, parce qu'il était incapable de s'occuper de toi. Alors oublie-le et pense à ton avenir. Et il la quitte. Elle est furieuse et se dit que Luc l'a laissée tomber, l'a laissée entre les mains de son frère. Elle est perdue. Les jours passent. Elle se sent de plus en plus seule. Elle se sent mieux physiquement, oui. Elle se sent mieux physiquement. Guérie. Mais plus elle guérit, plus elle se sent mieux, plus elle se sent seule. Elle a l'impression d'un grand vide. D'un grand vide autour d'elle. Prisonnière de son frère, dans cette chambre, que va-t-elle devenir? Elle aimerait mourir. Mais son corps, qui prend des forces, ne le veut. Un matin, son frère lui dit « Georges, viens cet après-midi. Est-ce que tu acceptes de le voir ?» Lui dit « J'ai pas courage de dire non. Alors faites-le venir. Mais dites-lui bien que ce doit être qu'une visite de courtoisie. Il n'y a rien d'autre. » Il lui dit « Très bien. » Et il la quitte, heureux. L'après-midi, lorsqu'il reçoit Georges, il lui dit « Ma sœur serait très heureuse de vous voir, malgré sa faiblesse. Elle veut bien vous voir, mais pas de discussion trop sérieuse. Elle est encore très fatiguée. » Georges, tout heureux, lui dit « Je vous le promets. » Et ils vont à la chambre de Hilde. Georges est très ému. Franck gêné. Il se demande comment elle va se comporter. On ne sait jamais avec elle. Il frappe à la porte. Entrez. Ils entrent. Elle est au lit, mais assise dans son lit. Leur dit, approchez-vous. Il s'approche. Franck lui dit, je t'amène Georges qui tient absolument à avoir de tes nouvelles. Mademoiselle, elle lui dit, je vous remercie. Je vais tout à fait mieux. Asseyez-vous. Il s'assoit sur des chaises, près du lit. Georges lui dit, vous avez été très malade. Il lui dit, oui, mais maintenant, je me rétablis bien. Il lui dit, il vous faudrait peut-être un peu de distraction. Il lui dit, c'est un peu tôt. Georges lui dit, lorsque vous irez mieux, nous organiserons un bal en votre honneur. Il lui dit, que vont penser les gens? Il lui dit, les gens seront très heureux de voir une si jolie jeune fille. Merci, monsieur. Vous allez toujours à Paris? Il dit, oui. J'ai mes affaires. Elle lui demande. Et les jeunes filles, d'abord, sont toujours aussi laides et malheureuses. Il rit et se dit qu'elle est comme avant. Il lui dit, oui, hélas, et aussi heureusement, vous êtes la plus belle et charmante jeune fille que j'aimerais. Elle lui dit, vous exagérez un peu, monsieur, mais ça fait plaisir. Vous êtes dans notre pays pour combien de temps? Il lui dit, le temps qui vous plaira. Elle lui dit, mon Dieu, vous allez vous y ennuyer? Qu'allez-vous faire? Il lui dit, je chasse un peu. Elle lui dit, je déteste la chasse. Eh bien, je ne chasserai plus. Et que ferez-vous à la place? Je penserai à vous. Je vous remercie, mais ce n'est pas une occupation mais intéressante. Je ne fais rien. Il lui dit, c'est normal, vous êtes malade. Franck est heureux de la voir, qui prend plaisir à ce badinage. Ne pensez pas que sa sœur pouvait trouver de l'attrait à faire ce genre de choses et avoir un tel sang-froid et jouer à la femme du monde à la perfection. Il se dit que les femmes sont toutes des comédiennes. L'une, ce n'était qu'un simple caprice. Mais elle ne voulait pas, par orgueil, qu'on le sache. Elle préférait que l'on pense que ce soit une peine d'amour. Ça fait sûrement bien, mieux. Il est heureux. Puis la conversation a continué simplement. On a pris le thé, on a bu à la malade et il a raccompagné Georges heureux. Et lui a dit, à bientôt. Oui. Cher ami, puis il est monté féliciter sa sœur. Féliciter sa sœur. Il dit, je te félicite. Tu t'es très bien comporté avec Georges. Il est enchanté. Elle lui dit, je l'ai fait surtout pour toi. Parce que Georges est un grand gentil garçon, mais rien de plus pour moi. Je ne peux l'aimer. Son frère lui dit, tu dis déjà que c'est un gentil garçon et c'est le début. Après, tu l'apprécieras mieux et tu l'aimeras. Elle lui dit, non, tu n'y connais rien. On peut apprécier une personne sans y prouver de l'amour. Enfin, le vrai amour. Il lui dit, tu rêves comme une petite fille. Tu crois que l'amour idéal, comme tu dis, peut se trouver dans la vie. Ou, et peut apporter le bonheur. Elle lui dit, oui, je le crois. Il lui dit, l'aventure te prouve le contraire. Il ne t'a apporté que les ennuis, la maladie, la misère. Si tu avais été avec un homme que tu aimais moins, tu aurais vécu sans nul doute mieux. Elle lui dit, mais j'ai été très heureuse C'est maintenant que je suis malheureuse, la voix lui dit. Parce qu'on t'a soigné et fait vivre décemment. Elle lui dit, non, c'est parce que j'ai perdu la personne que j'aime, la voix lui dit. Tu l'as perdu, c'est lui qui t'a perdu, parce qu'il te faisait dépérir. Tu allais mourir si t'es resté près de lui. Et maintenant je ne dépéris pas? Non, pas d'après les médecins. Ne fais plus de caprices. Et ne parle plus du passé. Repose-toi. Allez. Et ne pense plus à ton aventure. Rétablis-toi. Tu n'as rien d'autre à faire. Nous pensons pour toi. Nous veillons sur toi. Allez. Ne pense à rien d'autre. Laisse-toi aller. Et il la quitte. Il se dit qu'elle est prisonnière. Elle aimerait mourir, mais son corps jeune, vigoureux, veut vivre. Si j'avais du poison, j'en prendrais. Luc, où est-il? Elle pense constamment à lui, rêve à lui. Elle se souvient de son doux sourire, de son corps si délicat, ça lui fait mal. Il fait moins froid, le beau temps arrive. Au beau temps, assez court dans ces régions. Un printemps tardif et humide, et un été qui commence tard et se termine vers le 15 août. La saison des pluies commence et la fraîcheur arrive. Hilde, avec le retour des beaux jours, se rétablit vite. Son corps jeune et vigoureux a besoin d'être en bonne santé, de courir, de se nourrir abondamment. Mais elle est prise entre son âme et ce que demande son corps. Un corps plein de sève et de jeunesse qui ne demande qu'à s'épanouir. Le médecin ne vient plus la voir. Il a dit à son frère, elle n'a plus besoin de moi, la nature, les beaux jours vont s'en occuper. Merci docteur. Franck dit à sa sœur, faut sortir de ta chambre. Et aller un peu dehors, pour que tu puisses prendre des forces. Elle lui dit, je n'en ai pas envie, absolument pas envie. Son frère lui dit, il faut que tu retournes à la vie. Il va à la fenêtre, l'ouvre, et ouvre les volets. Regarde ce beau ciel bleu, ces arbres en fleurs. Viens voir. Va vers le lit. la soulève, la maintient et l'amène jusqu'à la fenêtre. Elle regarde le paysage. La fenêtre est fermée, mais elle sent l'air frais. Et il lui semble se réveiller d'un long sommeil sombre et froid. Son frère lui dit, tu descends, viens. Il met sa robe de chambre sur sa chemise de nuit. Et elle fait sortir de sa chambre. J'espère prendre un petit déjeuner dans la salle à manger. Assieds-toi. Assieds-toi. Puis son frère l'amène dans le parc. L'odeur des fleurs, la douceur de l'air lui font du bien malgré elle. Et se sent revivre. Il lui dit, tu vois, c'est bien fait de te mener ici. Elle ne dit rien, mais malgré elle, elle est contente d'être au milieu de cette nature. Elle se lève tous les matins pour passer la journée dans le parc. Son frère la laisse parce qu'il a s'occupé des terres. Il y a des moments, oui, il y a des moments où elle a envie de s'en aller pour retrouver lui. Mais elle se sent encore faible. Et puis, aller où? Les jours passent. Un après-midi, arrive au château, alors qu'elle est dans le parc, un fiacre. En sort un homme, grand, maigre, cheveux gris habillé de noir. Il porte une serviette et vient à lui et lui demande « Où Vous désirez, monsieur ?
Je lui dis. Je suis. Le notaire de la famille Gold, mademoiselle.
Elle lui dit. Je suis mademoiselle Hilde.
Gold. Monsieur.
Il lui dit. Bonjour, mademoiselle. J'aimerais si parler à votre frère, monsieur Franz Gold.
Oui, monsieur.
Alors, où est-il ?
Elle lui dit, malheureusement, il est parti pour la journée. Que puis-je pour vous, monsieur ?
Il lui dit, j'aurais aimé si parler à votre frère de choses très sérieuses.
Vous pouvez me le dire, je le lui dirai.
Le notaire hésite et se dit que ça peut peut-être attendre.
Mais malgré tout, il lui dit,
vous lui direz de venir me voir. C'est au sujet de ses affaires et de ses hypothèques. Malheureusement, je suis très embarrassé. Votre frère a des ennuis d'argent très importants. Il faut qu'il prenne des décisions. Je ne peux pas continuer de m'occuper de ces biens comme ça.
Elle demande, les choses vont-elles si mal, monsieur?
Oui, très. Les terres ne rapportent rien. Et vous devez beaucoup d'argent.
Que voulez-vous, mademoiselle?
Il faut revenir à la réalité et à son époque. C'est bien de chercher à vivre hors du monde. Maintenant, est tout de même dans le monde. Et le monde frappe à votre porte pour demander des comptes. Et c'est la triste réalité de la vie qui vient à vous. Pour vivre, il faut de l'argent. Pour ça, il faut faire ce qu'il faut. Je suis vraiment navré parce que vous semblez être une gentille personne. Votre frère aussi d'ailleurs. Mais les créanciers sont aussi de braves gens et eux ont aussi besoin d'argent. Nous sommes tous des braves gens. Vous voyez, vous devez faire vite. Dire à vos frères de venir me voir le plus vite possible.
Elle se souvient de ce que lui a dit son frère et lui demande,
est-ce que vous allez vendre le château?
Terre lui dit, tout dépend de ce que va me dire votre frère.
Il fait un grand geste de la main, de ce qui l'entoure, et lui dit,
et puis, ce château, c'est une ruine, le château de la Belle au Bois Dormant. Un château pour rêver, pour les gentilles jeunes filles romanesques, rien d'autre. Seuls les terrains pourraient intéresser un acheteur, il le démolirait.
Elle lui dit, le château ?
Elle en a le corps qui bat. Oui,
elle se dit, c'est mon château, c'est la plus belle chose que je connaisse, le plus beau chef-d'œuvre du monde, avec ses pierres prises avec une lierre, ses ronces qui s'agrippent aux pierres, il fait partie du paysage, et sans lui, il n'y a plus de paysage. Et c'est là qu'elle a vécu ses premières années. C'est là que sa famille a vécu. C'est la chose la plus romanesque, gothique qui soit. Ce beau vieux château détient toutes les peines. Ce beau vieux château, lui qui l'a protégé de tant de choses et souvent fait rêver à tant de choses.
Il suffit de le voir pour rêver.
Non, il ne doit pas mourir.
Elle dit mourir comme si c'était une personne. Mais c'est une personne. Et c'est pas comme un appartement. Un appartement, c'est impersonnel. Mais là, ça fait partie de soi. Et puis c'est son château. Oui. Et où ira-t-elle? Où ira-t-elle vivre s'il n'y a plus de château? Je m'étais à la voir son jeu, je lui demande. Vous allez bien, mademoiselle? Elle lui dit.
Je ne sais pas.
Il lui dit. Ne vous faites pas de soucis avant que votre frère ait décidé quelque chose. Il y a peut-être une solution.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.